2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents. Le tour de l'actualité dans le monde et à la une ce lundi, l'accord, la perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Il doit être signé vendredi et à partir de ce moment-là, tous les conflits dans la région devraient cesser, y compris l'offensive israélienne au Liban. Ce qui déplaît à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite, le premier ministre israélien n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Et hier encore, son pays bombardait le Liban, affichant clairement ses différences de vue avec Donald Trump. On en parlera avec notre invité dans un peu plus d'une heure. On se penchera aussi sur ce que prévoit l'accord pour le fameux détroit d'Ormuz. Il doit rouvrir, mais l'agence de presse officielle iranienne annonce à l'instant qu'il est prévu des frais maritimes au bénéfice de l'Iran. De quoi inciter à la prudence, d'autant qu'il y en a eu d'autres, des projets d'accord. Détail dans le journal dans un instant. Ça n'empêche pas tout le monde de s'en féliciter. Donald Trump et le régime iranien, on en parle dans la Fabrique du Monde dans 10 minutes. Et les Européens aussi soulagés de voir la situation enfin évoluer, eux qui n'avaient la main sur rien. Nous appellerons notre reporter à Évian, où commence tout à l'heure le sommet du G7.
RFI Midi.
Nous irons aussi en Ukraine, où des drones russes ont fait 11 morts la nuit dernière et provoqué un incendie dans l'une des plus célèbres cathédrales de Kiev, un symbole de la religion orthodoxe classée au patrimoine mondial. On fait le point sur les dégâts dans une vingtaine de minutes. À suivre aussi un reportage au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où l'on s'apprête à une opération assez particulière et très symbolique, la restitution d'ossements de populations natives de Guyane enlevées à la fin du 19e siècle.
Ils ont été amenés en France pour l'exposition universelle de 1892, où ils ont été exposés donc, dans le jardin d'acclimatation, autrement appelé aussi zoo humain. Et ils sont malheureusement tous morts la même année. La plupart ont été enterrés et ils ont été déterrés en 97. Et là, ils ont été transférés dans les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Et désormais, ces ossements vont donc enfin pouvoir être inhumés dignement en Guyane. C'est l'objet d'une loi qui doit être votée tout à l'heure par les députés français. Et puis, on parlera aussi dans RFI Midi de foot, de la Coupe du Monde, les derniers résultats et les matchs du jour dans trois quarts d'heure. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite le journal, votre journal Gilles Moreau, avec d'abord donc cet accord pour la paix au Moyen-Orient, protocole d'accord après des semaines de négociations laborieuses.
Américains et Iraniens sont donc parvenus à un accord sur tous les fronts, y compris au Liban, pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et permettre la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce n'est qu'un accord cadre qui sera soumis à signature vendredi avant la tenue de nouvelles négociations, notamment sur le nucléaire iranien. En attendant, la bourse applaudit et les cours du pétrole repartent à la baisse, on va y revenir. Depuis la nuit dernière, on ne compte plus les réactions à l'international. Chacun célèbre un tournant important tout en restant prudent. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
En effet, ces dernières années, Oriane, eh bien, nombre de protocoles d'accords similaires se sont retrouvés confrontés aux difficultés du terrain.
Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, Israël a d'ores et déjà annoncé que ses troupes resteraient au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée. Depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas, la politique est claire et constante en Israël. Mettre en place des zones dites de sécurité sur les territoires voisins. Ainsi, après l'accord passé en 2024 au Liban pour mettre fin au conflit de haute intensité entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne a maintenu des positions sur le territoire libanais. À Gaza, le plan de paix annoncé en grande pompe par Donald Trump est également à l'arrêt. Les Palestiniens restent soumis à un blocus israélien dont l'armée contrôle toujours plus de 50% du territoire. Elle a été accusée d'ailleurs d'élargir petit à petit cette zone malgré une dynamique officielle de retrait total des troupes israéliennes de Gaza.
La différence aujourd'hui, c'est que ce protocole est conclu avec l'Iran qui est capable d'influencer d'autres acteurs comme le Hezbollah.
En effet, mais cela ajoute aussi d'autres variables à prendre en compte. Les négociations visent notamment à arriver à un accord sur le nucléaire iranien, vaste dossier. Là aussi, le spécialiste du Moyen-Orient, Sébastien Boussois, appelle à la prudence.
Il faudrait qu'il y ait un véritable accord cadre, soit pour l'abandon du programme, soit pour effectivement la rétrocession ou la destruction des 440 kilos d'uranium enrichi. On est dans une bataille des récits. Donald Trump nous dit que l'Iran a renoncé définitivement. Peu y croient, bien évidemment. Et du côté de l'Iran, on est à peu près dans la même stratégie de communication politique.
Pour rappel, le précédent accord sur le nucléaire, déchiré par Donald Trump en 2018, avait nécessité des années de négociations.
Oriane Verdier, merci. Parmi Les réactions à l'accord dévoilé, Paris approuve mais demande la mise en place d'un cessez-le-feu robuste et durable au Liban. En Israël, pas encore de réaction du Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais des responsables issus du gouvernement et de l'opposition sont critiques. Ils affirment que le compromis annoncé ne répond pas aux impératifs de sécurité de l'État hébreu. En Espagne, enfin, le Premier ministre Pedro Sanchez appelle à ne pas oublier le coût du conflit, un non-sens selon lui.
Dans les milieux économiques, c'est le soulagement.
Oui, l'accord conclu entre Américains et Iraniens prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'économie mondiale, on le sait. Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, la nouvelle a été bien accueillie par les marchés.
Oui, à commencer par celui du pétrole. Le baril de Brent, référence en la matière, retombe autour des 82 $, en baisse de près de 7%. C'est même son plus bas niveau depuis 3 mois. De quoi rassurer les places boursières qui affichent ce midi leur optimisme, ou du moins leur soulagement. En Europe, le CAC 40 et Francfort ont ouvert en hausse de plus d'1%. Les bourses asiatiques aussi retrouvent des couleurs. Plus 5% pour Séoul, idem pour le Nikkei japonais qui signe là un record. Mais les investisseurs restent prudents. En temps normal, 140 navires transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz. Et depuis ce matin, seuls 2 l'ont franchi d'après les sites de tracking maritime. Un méthanier sous pavillon maltais et un porte-conteneur. Avant la signature de ce protocole d'accord, l'agence américaine de l'énergie prévenait il faudra plusieurs mois pour retrouver le niveau de trafic habituel. Rien n'indique non plus, Gilles, que les prix retrouveront ceux d'avant crise. D'autant que l'agence Fars indique ce midi que des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz ont été ajoutés in extremis à l'accord.
Arthur Ponchelet du service économie.
Et dans ce contexte plus apaisé, commence tout à l'heure le sommet du G7 à Évian dans les Alpes françaises.
Oui, remis en selle par ce déblocage, Donald Trump est attendu dans l'après-midi avec pour commencer un entretien avec son homologue français. Emmanuel Macron entend capitaliser sur ce tournant pour enclencher la mission internationale franco-britannique, mission destinée à accompagner la réouverture du détroit d'Ormuz. À ce sommet d'Évian, Paris espère aussi obtenir de Washington une posture plus à l'écoute de Kiev et moins de Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Demain mardi, Volodymyr Zelensky rejoindra les dirigeants du G7. Sur place en Ukraine, une dizaine de personnes au moins ont été tuées par une série de frappes russes sur plusieurs villes. À Kiev, un incendie a ravagé la cathédrale de la Dormition, édifice orthodoxe classé à l'UNESCO.
Il y a un mois, tout juste, la République démocratique du Congo déclarait la 17e épidémie d'Ebola de son histoire.
Et depuis, le virus progresse à toute vitesse, principalement en Ituri, où tout se joue. Selon Médecins Sans Frontières, cette région concentre à elle seule 95% des cas recensés. À Bounia, la capitale régionale, impossible d'obtenir un bilan précis, mais les décès se succèdent. Reportage de notre envoyée spéciale Coralie Pierret.
Au cimetière de Nyamurango, c'est un va-et-vient permanent. Un corbillard arrive pendant qu'une ambulance repart. Elle vient de laisser le cercueil d'un chercheur d'or, un homme de 50 ans. Ses proches viennent de le mettre en terre et son frère raconte que tout est allé très vite. L'orpailleur est entré au centre de traitement Ebola, le CTE, et est décédé le lendemain.
Nous l'avons amené le jeudi au CTE parce qu'on avait vu qu'il présentait certains signes. Le vendredi, autour de 16h, il avait rendu l'âme.
À l'hôpital, personne n'a pu poser un diagnostic ferme parce que les résultats des tests ne sont pas encore arrivés. Mais ce n'est pas le premier de la famille à mourir comme ça, en quelques jours.
En fait, nous avions enterré notre beau-fils il y a de cela une semaine. Alors peut-être c'est par là qu'il était affecté, on ne sait pas.
Un peu plus bas, des jeunes hommes creusent encore de nouvelles tombes. Janvier Samba Boku, le représentant adjoint de ce cimetière, le plus grand de Bounia, semble dépassé tant les enterrements se succèdent.
Par jour, au 13, 6, 7, presque 10, ça arrive. Avant, on creusait 3, 4, aussi même, ça arrivait.
Les autorités affichent le chiffre de 782 cas confirmés d'Ebola et selon MSF, dans un communiqué, personne ne connaît l'ampleur de l'épidémie en RDC ni quelles sont précisément les zones où le virus circule. Coralie Pierret, Bounia RFI.
Également dans l'actualité de ce début de semaine, une mesure du gouvernement Starmer très commentée au Royaume-Uni. Londres va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, emboîtant le pas ainsi de plusieurs pays ayant déjà durci leur législation. En France, place au bac philo pour les lycéens. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté avec la philosophie pour quelques 130 000 élèves de terminale. Ils ont maintenant remis leur copie, dissertation ou bien commentaire de texte. Costa.
Et puis un mot de foot et de la Coupe du Monde, Gilles.
Oui, avec parmi les derniers résultats, la belle opération de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur, battue in extremis 1-0. Les Pays-Bas et le Japon ont partagé les points 2-2. Et la Suède a infligé un revers à la Tunisie 5-1. Les Aigles de Carthage ont été complètement dépassés par le talent des Scandinaves, en particulier celui de Yacine Ayari, qui se souviendra longtemps de son premier match en Coupe du Monde. Cédric De Oliveira.
C'est une histoire symptomatique de ce que peuvent vivre les joueurs binationaux. À 22 ans et une vingtaine de sélections dans les jambes, Yacine Ayari n'a pas mis longtemps à prendre ses marques dans cette Coupe du Monde. Au bout de 7 minutes de jeu seulement face à la Tunisie, c'est lui qui a débuté le feu d'artifice de son équipe. Une fusée, effectivement, une frappe splendide sous la barre, un but que tout footballeur rêve de marquer. Mais Ayari a eu une joie mesurée. La Tunisie est le pays de ses parents. Il aurait même pu défendre ses couleurs. Les Aigles de Carthage l'avaient approché en 2022, alors qu'il venait tout juste d'atteindre sa majorité. À l'époque, le prometteur milieu de terrain avait décidé de jouer pour la Suède, lui qui est né à Solna, dans la banlieue de Stockholm. Avant le match contre la Tunisie, Ayari avait déjà précisé que ses parents lui avaient laissé le choix de sa nationalité sportive. À 22 ans, le joueur de Brighton s'est donc offert un doublé pour son tout premier match de Coupe du Monde. Il pourrait devenir un joueur majeur de la Suède et imiter ainsi un de ses illustres aînés, Zlatan Ibrahimovic, lui aussi binational.
Cédric De Oliveira, le Cap-Vert, lui, joue ce lundi son tout premier match en Coupe du Monde. Les joueurs appelés les Requins Bleus affrontent pour commencer un gros morceau l'Espagne au stade d'Atlanta. Également au programme l'entrée en lice de l'Argentine, championne du monde en titre. Lionel Messi et ses partenaires commencent contre l'Algérie. Vous trouverez sur notre site le calendrier du mondial avec le programme complet, date et horaire des matchs, tous les résultats et de nombreuses rencontres à suivre en direct. Voilà, bon match et bonne journée sur RFI. Tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Gilles Moreau pour le journal, à tout à l'heure. C'est donc une perspective de sortie de crise, même s'il reste beaucoup à faire. Guillaume Nodin, vous revenez dans la Fabrique du Monde sur cet accord, ce protocole d'accord, parce que la signature formelle est prévue à la fin de la semaine seulement, entre les États-Unis et l'Iran. Il prévoit un arrêt complet des bombardements en Iran, dans la région et au Liban. Et puis, 60 jours de négociations dans l'espoir de parvenir à une paix durable.
Oui, c'est donc à la fois une fin et un début. La fin d'une guerre déclenchée par l'attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février dernier et d'une campagne de bombardement massif à laquelle l'Iran a répliqué par de nombreux tirs de missiles balistiques et de drones contre les intérêts israéliens et américains dans de nombreux pays de la région. Et c'est le début d'une négociation qui s'annonce difficile. Elle va porter sur 4 dossiers principaux, selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères: la levée des sanctions contre l'Iran, la question du nucléaire, la reconstruction et le développement économique du pays et la mise en place d'un mécanisme de suivi des engagements pris. Ce sont autant d'occasions de blocage et de risques de reprise du conflit.
Mais en attendant, chaque camp revendique la victoire.
Oui, c'était un enjeu politique que chacun puisse ressortir de cette affaire en vainqueur. L'état-major iranien affirme dans un communiqué diffusé par la télévision d'État que l'Iran a imposé sa volonté divine et d'acier à des ennemis américains et sionistes, c'est comme ça que désigne Israël, triomphalisme également de Donald Trump qui, à quelques mois des élections de mi-mandat, faisait tout pour en sortir le plus vite possible. Dans une publication sur son réseau social personnel, il écrit qu'il autorise pleinement la réouverture du détroit d'Ormuz sans droit de passage et parallèlement la levée immédiate du blocus naval américain. Il triomphe d'autant plus que cet accord intervient le jour de son 80e anniversaire, juste avant sa grande soirée d'arts martiaux mixtes à la Maison-Blanche pour fêter l'événement et juste avant le sommet du G7 qui débute ce soir à Évian en France, où la mise en œuvre de la réouverture du détroit d'Ormuz sera discutée.
Et presque partout ailleurs, c'est une forme de soulagement.
Oui, les pays européens de l'E4, France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie se disent prêts à lever certaines sanctions qui pèsent sur l'Iran si le pays s'engage à ne jamais posséder l'arme nucléaire et si des mesures iraniennes claires et vérifiables vont dans ce sens. La levée des sanctions est une question clé. Selon des informations non confirmées d'une agence de presse iranienne, l'accord prévoirait le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, dont 12 dès la signature. Soulagement également des marchés financiers avec des cours du pétrole en baisse de plus de 7% et des bourses en forte hausse à l'ouverture.
Il y a un pays qui ne triomphe pas en revanche, c'est Israël.
Oui, parce que Donald Trump a clairement forcé la main à Benjamin Netanyahou. Il lui a même fait savoir sa frustration après des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth qui auraient pu tout faire capoter hier. Cela fait toujours peser un risque sur la signature et les négociations à venir. Pour l'État hébreu, le succès tactique du 28 28 février avec la frappe qui a tué le guide suprême et son entourage se transforme en échec stratégique. Le régime iranien est toujours là et de nouveaux leaders sont même apparus.
Guillaume Nodin pour La Fabrique du Monde. Et on aura l'occasion de reparler de la position israélienne, des dissensions avec les États-Unis et de cet accord imposé à Benjamin Netanyahou avec notre invité à midi 20, temps universel. Cet accord, vous nous le disiez, il en sera aussi question au sommet du G7 qui commence ce soir dans la ville française d'Évian. Sur place, les dirigeants des États-Unis, de la France, du Canada, d'Allemagne, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, plus le président brésilien et la présidente de la Commission européenne, et notre reporter Julien Chavannes. Julien, évidemment, le président américain est celui que tout le monde attend hein, après cette annonce. Et les Européens, eux, veulent en profiter pour relancer leur initiative de sécurisation du détroit d'Ormuz.
Oui, c'est une initiative franco-britannique lancée il y a déjà plusieurs mois. L'idée, c'est de déployer des navires militaires dans le détroit pour déminer les eaux, mais aussi pour garantir la bonne tenue du cessez-le-feu. Le porte-avions français Charles de Gaulle est toujours prépositionné dans la région. Londres, de son côté, s'est dit prête à envoyer des bateaux. D'autres pays pourraient s'y joindre. Après 4 mois passés sur la touche, les Européens veulent tenter de jouer un rôle entre les Américains et les Iraniens.
Alors Julien, est-ce que malgré tout, ils seront écoutés? Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus?
Alors c'est toute la question, surtout qu'on ne connaît pas les détails de cet accord préliminaire sur le détroit d'Ormuz. Et puis on sait que Donald Trump en veut aux Européens pour ne pas l'avoir suivi dans cette guerre. On verra vite dans les prochaines heures comment il va traiter ses alliés du vieux continent.
Donald Trump, il est aussi attendu sur l'Ukraine. Volodymyr Zelensky sera là demain. Est-ce qu'on peut s'attendre à des avancées concrètes?
Alors il faut avoir en tête que Donald Trump arrive ici triomphant, que c'est encore lui qui va de toute façon dicter le tempo et l'agenda de ce G7. Paris a pourtant tout fait pour le satisfaire. Les sujets qui déplaisent au président américain ont été mis sous le tapis. On ne parlera pas du climat lors de ce sommet, ni des droits humains. Cécile Duflot, la directrice exécutive de l'ONG Oxfam en France, a fait le déplacement pour dénoncer un sommet inutile.
Ce qui est problématique, c'est que, et notamment Emmanuel Macron a tellement tout fait pour contenter Donald Trump, pour qu'il vienne, et pour l'image que, en fait, il a vidé de sa substance la question des débats qui auraient pu avoir lieu. Là où le monde peut bouger dans le bon sens, ça va finir par ne plus être du tout au G7. Donc ce sera une sorte de musée de l'impuissance politique et du cynisme constaté d'avance même.
Le président français espère quand même marquer des points sur d'autres terrains. La protection numérique des mineurs, l'accès aux minerais critiques, l'intelligence artificielle. Il sait qu'il doit avoir des résultats à présenter à la fin du G7, à moins d'un an de la fin de son mandat. Et ses partenaires européens ne pourront peut-être pas lui être d'un grand secours non plus. L'allemand Friedrich Merz et le britannique Keir Starmer sont fragilisés dans leur pays.
Julien Chavannes, en direct d'Évian, où commence donc dans quelques heures le sommet du G7. Donald Trump, qui s'enorgueillit déjà de ce début d'accord avec l'Iran et souhaite maintenant, ce sont ses mots, que le pétrole coule à flot après la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est considéré comme une bonne nouvelle par les marchés financiers vu les tendances sur les places boursières en Asie et en Europe. Mais il n'y a pas que le pétrole qui était bloqué ces derniers mois. Il y a aussi de très nombreux engrais chimiques utilisés par les agriculteurs du monde entier et des pays comme l'Espagne, par exemple, en ont subi les conséquences. Alors pour compenser, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers un engrais naturel, c'est le purin des vaches, que l'on trouve beaucoup dans le nord de l'Espagne où il y a beaucoup d'élevage. Reportage à Cabrales, dans la région des Asturies, de notre correspondante Diane Cambon.
C'est une odeur forte de terre, de bouse et paille séchée qui se dégage des grands hangars où sont répartis 6 tas de 400 tonnes de caoutchouc, non donné en Asturie, au fumier de vache. Sergio, le responsable de la plateforme de compostage d'Ortigueru, un petit village situé en plein cœur du parc naturel des Pics d'Europe, contrôle l'évaporation de l'humidité de chaque tas. Une étape essentielle du processus de compostage durant laquelle le purin ou fumier se transforme en matière organique d'une qualité écologique et d'une valeur en éléments nutritifs très élevée.
Là, c'est le premier hangar où l'on déverse les conteneurs de fumier récupérés chez les éleveurs. Il faut attendre environ 8 mois pour que ces tas deviennent un engrais utilisable. On doit diviser les tas, puis les retourner pour favoriser l'aération. Et parfois même, on utilise des ventilateurs pour accélérer le processus.
Le gouvernement des Asturies avait mis mis en place dès 2002 un système de récupération des lisiers provenant de l'élevage pour protéger la réserve de la biosphère des pics de l'Europe et éviter les écoulements dans les nappes phréatiques des nitrates présents dans les excréments des vaches. Aussi bien la récupération des purins chez les éleveurs que la distribution des engrais est un service public et gratuit. Or, depuis l'éclatement de la guerre contre l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz, cet engrais naturel est devenu très précieux. Sandra González, en charge de l'économie circulaire au gouvernement régional, confirme une hausse de la demande. Les 1,7 million de kilos d'engrais produits l'an dernier risquent bien cette année de ne pas satisfaire la demande.
En 6 mois, nous avons déjà fourni une quantité d'engrais qui double celle de toute l'année dernière. La question du prix est évidemment un argument de poids, mais l'aspect écologique compte aussi. Et on peut dire en quelque sorte que ce problème d'approvisionnement a un aspect positif.
Parmi les clients actuels, il y a les collectivités locales qui ont recours aux engrais pour revitaliser les terres polluées de leurs communes, mais aussi des agriculteurs locaux, comme ceux qui cultivent les fruits rouges ou la pomme pour la production locale de cidre. Par ailleurs, les agriculteurs et producteurs de fruits du centre et sud de l'Espagne, où les terres sont moins fertiles que dans le nord de la Cantabrie, sont chaque fois plus intéressés aussi par cette matière organique. Mais la distribution à grande échelle est encore difficile à mettre en place, regrette Sandra.
C'est très compliqué de transporter ce type d'engrais. Et on peut comprendre que certains agriculteurs préfèrent recourir aux granulés chimiques ou aux intrants liquides qui sont plus faciles à manier. D'autant que l'engrais issu du purin nécessite des machines. Mais si le prix des engrais traditionnels continue d'augmenter, c'est sûr qu'il deviendra une alternative viable pour les agriculteurs.
Reste à savoir comment la région des Asturies compte commercialiser cet or noir dans le reste du pays. Les bénéfices économiques sont aujourd'hui limités au secteur agricole local. L'éleveur Benigno Pérez est à la tête d'un cheptel de 60 vaches. Ce trentenaire produit le fameux fromage Cabrales. Depuis qu'il n'a plus à se soucier de la gestion du purin, il a pu augmenter sa production.
Le fumier est produit en hiver lorsque les vaches sont à l'étable et un peu l'été pendant la traite. On en produit environ 400 tonnes par an. Alors quand on a su qu'il y avait cette plateforme de compostage, on a été très soulagés parce qu'on ne savait plus quoi en faire de tout ce purin. Maintenant, la société passe récupérer nos conteneurs chaque semaine, ce qui nous permet d'avoir plus de vaches et même tout simplement de continuer à faire de l'élevage, parce que le traitement du fumier est un vrai casse-tête pour les éleveurs.
Le gouvernement régional des Asturies a augmenté son budget 2026 de 1 million d'euros pour développer le compostage de purins et faire face à la hausse de la demande. Un espoir aussi pour les partisans d'une agriculture moins intensive et dépendante des intrants.
Un reportage de Diane Cambon dans la région des Asturies. Vous pourrez le réécouter tout à l'heure dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h40, temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Un coup d'œil à la presse européenne. Le Guardian se penche sur le plan pour la souveraineté numérique de l'Union européenne. L'Europe commence à prendre ses distances avec les géants technologiques américains, mais elle reste encore soumise aux règles de la Silicon Valley. Ces propositions, estime le journal, révèlent un manque de vision décevant. Non seulement le cadre présente des lacunes, écrit le Guardian, mais en plus, l'application de la réglementation sera déléguée au gouvernement des États membres, dont beaucoup ont tout intérêt à l'appliquer de manière laxiste afin d'attirer les investissements technologiques américain ou d'éviter les pressions du gouvernement des États-Unis. Le Temps, lui, s'intéresse à l'élection présidentielle en France prévue l'année prochaine avec cette question : pourquoi diable font-ils des meetings avant l'été ? Après Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann a lancé sa campagne ce samedi en région parisienne. C'est du jamais vu, nous dit le journal, aussitôt dans l'année précédant une élection présidentielle. Meeting en juin, compte de campagne chagrin. Ils lancent leur campagne présidentielle trop tôt, estime Le Temps. Et puis El País nous parle du premier match de l'Espagne en Coupe du Monde face au Cap-Vert. Tout à l'heure, décollage vers la deuxième étoile, écrit le journal, en s'interrogeant quand même sur l'équipe du jour. Il reste à voir comment Lamine Yamal et Nico Williams, de retour à l'entraînement jeudi dernier après leur blessure, pourront exploiter leur talent exceptionnel.
RFI, l'Europe à midi.
Toute la presse européenne revient aussi sur les bombardements massifs qui ont touché l'Ukraine la nuit dernière. 70 missiles, plus de 600 drones russes. Au moins 11 personnes ont été tuées et on déplore aussi des dégâts très importants, notamment dans la cathédrale de la Dormition à Kiev. Daniel Valo, cette cathédrale, c'est un symbole, un lieu emblématique. Elle date du 11e siècle. Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc l'émotion est très très vive à Kiev aujourd'hui.
Oui, à Kiev et sans doute ailleurs, car cette cathédrale est un édifice extrêmement connu dans le monde orthodoxe. Les dômes dorés de la cathédrale sont emblématiques, tout comme le réseau de grottes qui se trouve dessous et où s'est installé à partir du 11e siècle l'un des monastères les plus importants et les plus connus de la chrétienté orthodoxe. Ce lundi, le métropolite Épiphane de Kiev, primat de l'église orthodoxe de l'alors, dénonce un crime contre l'humanité, contre l'histoire et contre la chrétienté. Indignation partagée par toutes les autorités ukrainiennes qui accusent la Russie d'avoir délibérément visé l'édifice. Écoutez la réaction du maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui s'exprimait ce matin sur les réseaux sociaux.
L'incendie sur le toit de la cathédrale de la Dormition a été maîtrisé. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO fait partie de l'ancienne ville de Kiev. L'ennemi détruit notre histoire, essayant d'effacer tout ce qui est ukrainien. Mais Kiev a résisté pendant tant de siècles. Kiev résistera et guérira ses blessures, même aujourd'hui.
Et pour l'heure, Daniel, il est trop tôt pour connaître l'ampleur des dégâts et pour savoir s'ils seront réparables.
Oui, l'inventaire est en cours. Selon la presse ukrainienne, des objets sacrés et des reliques ont été évacués durant l'incendie. Pour le moment, les dégâts les plus importants sont constatés à l'extérieur. Une façade de la cathédrale est éventrée et le toit est partiellement détruit. Ce n'est pas la première fois que la cathédrale de la Dormition à Kiev est touchée. Elle avait été une première fois en janvier dernier, mais les dégâts les plus importants infligés au bâtiment remontent à la Seconde Guerre mondiale.
Alors vous l'avez dit, les autorités ukrainiennes accusent la Russie d'avoir délibérément visé cet édifice. Mais pourtant, ce matin, le Kremlin, lui, a démenti avoir visé cette cathédrale.
Oui, dans un communiqué, le ministère russe de la Défense assure que c'est un missile Patriot fourni par les États-Unis qui a touché le site, un missile Patriot utilisé pour la défense anti-aérienne de Kiev. La Russie dément donc être responsable des dégâts infligés à la cathédrale, mais il y a bel et bien une volonté de viser et de toucher les sites culturels et historiques de l'Ukraine. La Russie a ainsi frappé dans le courant de la nuit un studio de cinéma historique à Kiev, le musée des beaux-arts de Kharkiv et la maison de la musique à Dnipro. En mai dernier, plusieurs autres édifices culturels de première importance avait été visée, dont le musée d'art national et l'opéra de Kiev.
Donc Daniel, il y a une intention délibérée effectivement de détruire le patrimoine culturel ukrainien.
C'est le constat qui a été fait par Kiev, mais aussi par l'UNESCO, qui a dénombré plusieurs centaines de sites culturels endommagés depuis le début de la guerre. Des œuvres d'art ont dû être déplacées et protégées. Les autorités ukrainiennes estiment qu'il s'agit d'une façon pour la Russie d'effacer la culture du pays pour en minorer l'importance. Et il est vrai que dès février 2020, et le déclenchement de ce que la Russie a appelé l'opération militaire spéciale, Vladimir Poutine a invoqué des raisons historiques et culturelles pour justifier cette guerre. Il y a l'intention donc de s'en prendre clairement au patrimoine ukrainien, mais avec la lore des grottes, c'est un site emblématique pour l'ensemble du monde orthodoxe qui est touché. Et pour le chef de la diplomatie ukrainienne, c'est un palier de plus qui est franchi par Moscou. Vladimir Poutine a inscrit pour toujours son nom sur la liste des pires barbares de l'histoire, déclare ce lundi Andriy Sybiha, qui annonce la saisine de l'UNESCO et qui attend la réaction la plus ferme de la communauté internationale face à ce qu'il qualifie de barbarie étatique.
Daniel Valo.
RFI Midi, Anne Cantner.
Il est presque 11h30 en temps universel. Ça veut dire que dans presque une demi-heure, ce sera votre journal de Mathieu Vendrely, avec au sommaire tout à l'heure.
Avec cet accord annoncé, en tout cas la signature, ce sera vendredi prochain, d'un accord destiné à mettre fin à la guerre en Iran et dans l'ensemble du Moyen-Orient. On fera le point sur les réactions entre prudence et satisfaction, mais surtout, on évoquera ce silence assourdissant, celui de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien. On verra cela avec Frédéric Misselin à Jérusalem. Dans ce contexte, le sommet du G7 qui débute ce soir à Évian dans les Alpes françaises. Le président américain est attendu dans l'après-midi. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Valérie Gass. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et vous venez d'en parler en Ukraine, la cathédrale de la Dormition.
99.1.
Le mix.
Electro House Session sur Radio HDR le vendredi à 23h. On rediffle le lundi à 2h. DJ Aratek. Éco-session par DJ Aratek.
Y a-t-il pour votre service ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous ?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM HDR.
Le voyage radiophonique.